Ça ressemble beaucoup à l'âge de Speed qui est donné pour une question kabbaliste en Israël. Quoique en Israël, nous savons 40 ans, c'est un âge mental, surtout qu'on réclame. Ce n'est pas tellement un âge
Ouais.
réel. Et on ne sait pas très bien. En tout cas, personnellement, je ne sais pas. Mais très certainement, actuellement, les Druzes sont une ficelle de l'islam. C'est-à-dire c'est une manière d'être musulman, mais malgré tout, du point de vue de leur société, ils ont des rites. Et certainement des doctrines spécifiques à la religion de trouver. Nous avons étudié ce problème jeudi soir. Il y a une sorte d'héritage de l'identité d'Abraham qui est très voisin de la manière dont l'héritage d'Abraham s'est perpétué en Israël. C'est une identification absolue entre la perspective religieuse et la perspective morale. Et au fond, l'initiation, disons dire, de Moïse chez les troupes pendant ces 40 ans où il restait dans le pays de Midian, c'était, si vous voulez, d'apprendre des référés préalables à la révélation de la Torah. Et ce n'était pas des référés spécifiques. Vous pensez à la question pourquoi il y a des Juifs qui souffrent et finalement, c'est la deuxième réponse qui est l'essentielle. Tzadik v'tovlo, tzadik gamour, rachar v'tzadik v'ravlo, tzadik she'eno gamour, rachar v'tovlo, rachar she'eno gamour, rachar v'ravlo, rachar gamour. C'est-à-dire, un juste, et il a du bien, c'est que c'est un juste absolu, un juste total. Un juste, et il a du mal, c'est que c'est un juste qui n'est pas complètement juste. Un méchant, et il a du bien, c'est un méchant qui n'est pas complètement méchant. Et un méchant, et il a du mal, c'est un méchant qui est complètement méchant. Mais alors là, dans la réponse de la Gemara, le mot de Tov et de Ra ne signifie pas exactement le bonheur et le malheur, mais signifie, comme je l'ai traduit, le bien et le mal. C'est-à-dire en schématisant beaucoup, parce que c'est un problème énorme, ce problème que nous citons ici. C'est un tzadik, Tovlo. C'est-à-dire, non seulement il est tzaddik, mais il a aussi le bien en lui, alors celui-là est un juste absolu. Non seulement, ou bien, rachat de Ravlo, non seulement c'est un rachat, c'est un méchant, mais il a le mal en lui, alors celui-là c'est un méchant absolu. La première réponse était une relation avec la filiation de juste entre eux. Un juste, fils de juste, est différent d'un juste et fils de rachat. Un rachat, fils de rachat, est différent d'un rachat qui n'est pas fils de rachat. Il y a là une situation paroxysmale du tzadik ou du rachat qui est présentée de manière. C'est un problème très vaste, mais je crois qu'il est important de comprendre que c'est effectivement la question de Job. Cette question a été posée deux fois, finalement. Une fois avant la Torah, par Job, et une fois après la Torah, par le roi Salomon. Lorsqu'on compare le livre de Job et le livre de Kohelet, on s'aperçoit qu'il y a une très grande analogie dans la problématique de la question de l'Ecclésiaste et de la problématique de la question de Job. La différence, c'est qu'il y a une différence qui est de tragique. Job pose sa question avant que la Torah ne soit donnée. Alors il y a un espoir. La Torah n'est pas encore donnée. Mais, si vous voulez, Kohelet, Salomon pose sa question après l'histoire de la Torah. Salomon, c'est le fils de David. Après la tentative de la Torah, voilà que de nouveau la question se pose. C'est la raison pour laquelle dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a une dimension certainement plus tragique que encore dans le livre de Job. Dans le livre de Job, il y a Deus ex machina, si j'ose dire. À la fin du livre de Job, Dieu se révèle et tout s'arrange. Tandis qu'à la fin du livre de l'Ecclésiaste, le verset clé dit. Sauf d'avoir un cauchemar, fais attention, crains Dieu et obéis à ses commandements et débrouille-toi. Et vous voyez, selon un des midrashs de la Kabbalah, l'histoire, l'or avant la Torah, c'est très exactement Terah, le père d'Abraham. Vous voyez, avant que l'histoire d'Abraham commence, la question de Job. Et après l'histoire de David, de nouveau, la question, mais c'est la question de. Du roi Salomon, du fils de David. Entre-temps, il y a eu la Torah, par conséquent, il y a une réponse. Mais l'enjeu, le risque, est certainement plus tragique, plus dramatique. qu'il faut aller sauver, représenter. Et ça, ça a duré 40 ans. Est-ce que vous comprenez bien ça? À partir du moment où il y a cette révélation, alors bien entendu, il faut que Dieu dise ce qu'il y a à faire. Mais jusque-là, c'était l'initiative de Moïse lui-même. Moi, je suis bien formel, j'ai bien compris votre question, mais je suis absolument formel. C'est que la raison pour laquelle, d'ailleurs, Moïse a été contesté tant par Israël que par les Égyptiens, c'est que finalement, c'est au bout de 210 ans seulement après la prophétie des 400 ans de Christ, vous voyez qu'il y a une anticipation qui a été déclenchée par l'initiative de Moïse, et Dieu l'a confirmé. Pourquoi nous disons dans la Haggadah, c'est-à-dire que nous avons recruché le sacrifice, Dieu a refait des comptes de la fin, d'accord, pour faire coïncider ces 400 ans, bien que nous n'étions qu'au bout de 210 ans. Alors il a ajouté 190 ans, pris sur la vie des patriarches, et il a pu le faire, parce que la vertu des patriarches avait été de se considérer en situation d'exil avant même que ne commence le temps de l'exil pendant 190 ans. Alors ça semble juste, tout se passe comme si que les patriarches soient cabalistes, ça va de soi, mais que Dieu lui-même de soi, ça dépasse tout. Mais c'est ça, la cause de l'Europe, si c'est le paquet, il a fait le compte de qu'est-ce que ça fait 190, c'est-à-dire la fin, et puis la sortie d'Égypte a été permise à ce niveau, mais par l'initiative de Moïse. Et comme vous le savez, c'est 1900 ans, c'est-à-dire 10 fois plus, très exactement, après la destruction du temple, que Jérusalem a été rendue aux Juifs, très exactement, en 1728, c'était 1900 ans après la destruction du temple. C'est pas vous affoler, c'est simplement une explication de ça. Non, c'est pas important effectivement comme problème. Vous savez, à ce moment-là, le Shlav parle de ça. Le Shlav pose votre question et il a répondu. Moshe était Tiron Bamboa. Tiron Bamboa, il était encore au temps où il était apprenti dans la prophétie. Est-ce que vous comprenez la réponse que je vous donne? C'est-à-dire, ce n'est pas encore Moïse qui voit clairement ce que la Torah a dit. Il est apprenti. Il peut supposer
que finalement l'essentiel de la promesse est donné à Abraham et que si cette lignée d'Abraham à travers Isaac et Jacob a échoué, eh bien il y a quand même une autre lignée d'Abraham et c'est Midian. C'est facile à concevoir. Et ce n'est que 40 ans après que vraiment confirmé dans sa connaissance de la prophétie, il prend acte que c'est seulement Israël qui est Israël.
Comment fait-il?
Il a une expérience
de ce que sont les Hébreux de l'époque, et la Sinachina, la Machloket, il s'agissait de Dathan et Abiram dans cette Machloket. Vous voyez, il connaît sa communauté, et il sait que voilà, Dieu lui dit, va prêcher la morale ultime et universelle à Israël comme peuple des prêtres pour témoigner de la moralité absolue. Mais il connaît ses juifs, il sait très bien que ça va marcher. Alors il me suit. Oui, c'est ça qu'on nous promet. Si j'ose dire, Moïse, à ce moment-là, n'est pas du tout au niveau fin d'étude, ça veut dire rabbinique, pour faire prophétie. Il était Tiron Bamboa. Il était encore élève rabbin. Oui.
Une
alliance réelle. Jusqu'à présent. On voit dans toute l'histoire du temps des prophètes, du temps des juges, du temps des rois, c'est que les Kénim, comme on les appelle à l'époque, sont des alliés naturels d'Israël. Et ce qui est vraiment très frappant, c'est de voir à quel point les Druzes contemporains, qui sont les descendants de cette communauté, sont vraiment presque de façon inconditionnelle notre ami, notre allié. Oui. Je crois qu'il faut dire que, au fond, parmi toutes les motivations, qui tendent à légitimer la position d'Israël actuellement, malgré tout, la plus cohérente, c'est celle, disons, d'une certaine gauche positive vis-à-vis d'Israël, et qui effectivement représente là une sorte de défense protecteur de motivation. En tout cas, je pense surtout à ce groupe des chefs français de la résistance, qui sont tous des socialistes, pas forcément des communistes, mais qui sont tous en grande majorité des socialistes, et qui ont été le seul groupe européen à vraiment prendre parti de façon motivée pour la position d'Israël dans les années que nous sommes en train de vivre, après d'ailleurs plusieurs voyages en Israël. Et les textes qu'ils ont édités montrent bien qu'il y a, comment dire, au-delà de cette motivation du sort des Juifs en tant que personnes humaines, des droits traditionnels en tant que la religion biblique la plus ancienne et fondatrice du pays d'Israël, au-delà de ces deux sortes de motivations qui restent encore très, très faibles, la motivation de la pointe qui a été donnée aux Israéliens vient véritablement de ce genre de motivation. Ce ne sont pas les pays socialistes qui ont aidé Israël, mais malgré tout une certaine forme de la sensibilité socialiste. La motivation est la suivante, c'est que, en fin de compte, il demande à l'humanité entière de prendre au sérieux le fait que si les idéaux socialistes ont un sens, c'est quand même en Israël plutôt que dans les autres pays du Moyen-Orient qui sont les mieux réalisés. C'est quand même un argument extrêmement important, ne serait-ce que pour l'opinion publique juive elle-même. Cette expression du Midrash, les descendants de Jéthro siégeront au Sanhédrin, et les venons à la Knesset, les descendants de Jéthro, sous une forme ou sous une autre, mais enfin, tout cet énorme parti socialiste israélien, c'est les descendants de la motivation de Jéthro. L'évidence, c'est cela, c'est le fait que l'identité d'Israël ne peut pas se réduire ou se borner à telle ou telle des dimensions de la culture humaine. Jéthro tout seul, Job tout seul, Bilal tout seul. Il y a dans l'identité israélienne quelque chose qui dépasse infiniment. C'est les trois coordonnées à la fois. Alors Moïse peut apparaître et la Torah peut être donnée. Alors Israël, c'est vraiment Israël. Ce peuple descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a trois vertus qui l'unifient en lui. Et au fond, si nous voulions donner la réponse à cette question des nations, mystère d'Israël, eh bien finalement il n'y a pas de mystère. Le mystère est facile à comprendre finalement. C'est le fait d'être fidèle à la fois aux trois exigences de la vertu humaine. Pas seulement la question de Job, pas seulement la question de Bilal, pas seulement celle de Jéthro, mais les trois à la fois. Alors là, il y a la Torah. De contracter un mariage avec une Midianite pour, j'interprète, mais enfin, tenter de mettre au monde une société à partir de Sipora, une société à partir de Midian. Et ça a été la grande contestation de Myriam et de Aaron contre Moïse. Hein, vous connaissez cet épisode de Isha Kushit, oui. Elle est Isha Kushit Lakar. Cette Isha Kushit, c'est Sipora elle-même. Myriam et Aaron ont contesté Moïse parce que, précisément, il avait choisi une identité autre que l'identité proprement hébraïque dans cet épisode. Il y a une analogie, à mon sens, absolue. Je pense que vous avez entendu la question. Est-ce qu'il y a une analogie entre les contestataires du désert, ceux qui voulaient retourner en Égypte, et d'autre part, la difficulté contemporaine représenté par l'entêtement de ceux qui veulent rester dans la loge. Je veux dire que j'ai beaucoup réfléchi au sujet. Je pense qu'au fond, personne aujourd'hui ne conteste plus le fait que normalement, il faudrait être en Israël. Dans le fond des choses, c'est très différent. Mais chaque entêtement, finalement, se réduit à des problèmes d'ordre particulier. Mais que dans le fond des choses, tout le monde est convaincu que c'est irréversible et que c'est fini. Et alors on cherche des justifications pro de nous, des justifications a posteriori. J'ai du travail ici, et d'abord j'ai un travail juif, et puis il faut s'occuper des autres, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Combien de gens sont venus venir depuis 2 ou 3 ans? Moi je m'en vais, seulement je ne veux pas partir tout seul. Il faut que j'en amène 300 personnes avec moi, alors attendez-moi. Bon, vous voyez à peu près le genre de réaction. Combien de gens m'ont dit ça? On va donner un bateau, on va faire la propagande, il faut faire savoir qu'on s'en va pour emmener les autres. Bon, c'est facile à comprendre. donner une réponse simple. C'est que, comment dire, préoccupé de l'urgence de sa mission, il a négligé de reconfirmer l'alliance de la circoncision à travers ses propres enfants. Et nous savons qu'il a été sauvé par l'initiative de Sipora qui, elle, est intervenue. Et à sa circoncision. Il est possible que, effectivement, on puisse expliquer de cette manière. C'est-à-dire que l'urgence de la tâche à l'échelle de la collectivité a fait négliger les devoirs à l'échelle de l'individu. On puisse parler là, on puisse penser là à une position doctrinale qui aurait consisté à déclarer l'alliance de la circoncision caduque, bien au contraire. Mais non, du point de vue de la halakha, et dans la mesure où on peut admettre que Moïse connaissait la halakha, du point de vue de la halakha, il est évident que lorsqu'on est en voyage, il y a possibilité de repousser la date de la circoncision. C'est non, par contre, comment ?
Au début,
oui. Mais écoutez, je crois que ce parallèle entre Herschel et Moïse n'est pas un parallèle, comment dire, de circonstances. C'est pas du tout la même identité. C'est un parallèle de fonction. Mais il doit être surtout vu tout au début de l'apparition de Moïse dans le peuple juif. Moïse apparaît comme un Égyptien, et comme l'Égyptien par excellence. De la même manière que Herschel est apparu dans le milieu juif, comme un juif radicalement assimilé. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'était complètement juif. Mais je crois qu'il était demi-juif. Je ne sais pas, peut-être. Sa femme n'était pas juif. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a quelque chose de cet ordre, mais... Comment ? Il s'appelait Benjamin. Si je me souviens bien. C'est encore une coïncidence symptomatique. Enfin, Benjamin, c'est l'identité de la dernière chance. Mais je pense effectivement qu'il est apparu dans la même figure. Et je vous ai raconté les premières années, il y a très longtemps, que j'ai commencé à étudier chez Rafou. J'étais toujours gêné, je n'étais pas le seul, par le fait que chez le petit bureau, dans la chambre du Rafou, prenne une photo d'Herschel. Et j'étais toujours extrêmement gêné, jusqu'au jour où je me suis rendu compte de cette analogie. Quand il dit notre école, c'est Hava Banim Zichron Ami Racha, ça c'est Herschel. Et c'est pourquoi je disais jeudi soir que tout se passe comme si nous sommes dans la Tkoufa actuelle, dans l'époque actuelle, au début de cette deuxième période de 40 ans, très certainement. Nous sommes devenus sensibles à des évidences qui nous auraient paru absolument hermétiques il y a 40 ans, il y a une cinquantaine d'années. Ça n'y a pas dit. Je comprends très bien, vous savez, très lucidement à quel point. Arriver à raccrocher à des évidences aussi contradictoires demande du temps et demande de la réflexion. Mais finalement, ce sont les événements qui ont parlé. Et devant les événements, on ne peut rien, on n'interprète pas un événement. L'événement s'impose pas. L'événement s'impose par lui-même. Il y a là une réalité d'ordre irréversible. Bien entendu, ce sera un tri. Et le mystère du tri à l'échelle individuelle est entre les mains de personne. Il se fera un tri. Beaucoup d'hommes et de femmes nés juifs quitteront Israël. Beaucoup d'hommes et de femmes qui ne sont pas nés juifs rejoindront Israël. Il y aura un tri. Mais enfin, le fait que nous soyons dans une génération très analogue à celle des événements de la société juive, ça c'est une évidence irréversible. Je crois d'ailleurs qu'on pourrait peut-être. Oui.
Il semblerait.
Ça ne signifie pas exactement les enfants des prophètes, mais les écoles, les élèves. Il y avait des écoles de prophètes. C'est-à-dire où on initiait les futurs prophètes qui se définissaient d'abord par un certain nombre de qualités spécifiques qui les rendaient capables de la prophétie, mais on les initiait à toute une sagesse leur permettant de comprendre la révélation qui leur serait donnée. Il y a, si vous voulez, toute une initiation à ce langage de la révélation, mais dans le fond du phénomène, c'est très différent de ce qu'on appelle de façon abusive l'inspiration. C'est-à-dire, effectivement, c'est une voix qui vient de l'extérieur de la conscience, mais il faut être capable de la comprendre et de l'interpréter. Et c'est pourquoi il y avait une telle école de conseil. Le terme que vous employez en disant périodicité, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'événements qui reviennent, hein. Il s'agit d'un développement de différentes étapes. Et chaque fois qu'il y a une étape de passage d'un temps d'histoire à l'autre, eh bien, il est normal que les structures dans lesquelles ce passage se fait redeviennent analogues. Enfin, comment dire, c'est à l'échelle collective que nous sommes en train de vivre, mais à une toute autre échelle, des événements analogues à ceux du passage de la Cantilésie. Il ne s'agit pas du tout du temps cyclique, du temps se répétant. Il ne s'agit pas de la grande année de Nietzsche, par exemple, qui revient et qui se répète. Il s'agit d'un développement de cycles à cycles. Mais les moments caractéristiques de passage font apparaître des structures analogues. L'entrée de Tzipora en Israël n'a pas été un échec, parce que Tzipora était une violette authentique. Hein. Mais Moïse n'est pas de la lignée des enjambeurs. Si la tentative était, à partir de Moïse et avec Tzipora, d'engendrer un peuple qui se substituerait à Israël, là il y a eu l'échec. Mais Moïse n'est pas de la lignée des enjambeurs, alors que Boaz est de la lignée de Judas, de la lignée de l'ancêtre de David, de la lignée de Judas. Effectivement, l'entrée de Ruth en Israël avec Boaz va rendre possible la naissance de David par la suite. Voilà la différence. Dans votre question se mêlent deux problèmes. Il y a le point de vue de l'universalisme, du problème de l'universalisme que vous avez posé au niveau des doctrines des idées et au niveau des personnes. Alors, je voudrais les distinguer. Vous avez surtout parlé du premier aspect, mais l'autre qui m'aide un peu, je voudrais d'abord le distinguer. C'est-à-dire, au niveau des personnes, il faut qu'il soit bien entendu pas pour toutes que quiconque, à l'échelle individuelle, veut devenir juif, le peut. Ça, c'est bien clair. Par conséquent, un membre des nations qui veut entrer dans l'identité d'Israël, le peut. Israël est un peuple qui, dans son principe, est universaliste, parce que n'importe qui peut devenir Israël. Je veux dire que sa spécificité, c'est d'être universaliste. Les nations ont toutes un génie particulier, mais cette manière d'être spécifique d'Israël, c'est d'être tout bon. Le Talmud dit dans une phrase célèbre, Atem Kronim Adam, Velo Motarola. C'est vous qui êtes nommé l'homme, Israël égale Adam. Et il y a là un objectif mécanique très important, c'est de réaliser l'identité, l'identification de tout l'homme dans une manière d'être homme, en préfiguration, elle est Israël. Maintenant, d'autre part, pour le deuxième aspect, c'est un avis strictement personnel que je vous donne. Je crois que c'est constitutif à l'identité des nations de ne pas pouvoir arriver à identifier ces trois formes de la sagesse. Il y a là trois équations, si les culturelles ou spirituelles, vraiment exclusives l'une de l'autre. Ce qui définit l'être égoïste par rapport à l'être d'Israël, c'est qu'Israël est identifié. Alors que les goïms ne le font pas. Je crois que la vision universaliste, la plus simple dans le schéma messianique juif, c'est que Israël se constitue comme identité unifiée en modèle pour les nations. Et qu'il y a une manière d'être qui n'est pas biologique, qui est peut-être plus psychologique, qui permet cette religion de l'unité. Vraiment, quand nous disons Dieu est un, nous intégrons ces trois coordonnées dans une même unité, alors que chez les nations, ça reste spécifique. Même dans le thème chrétien de la Trinité, il y a spécificité des personnes et distinction des trois personnes. Ça, c'est une analogie que je vous donne, mais pour indiquer ça. Je crois que dans le monde goy, et pas seulement au niveau universitaire, mais dans le monde goy, ces trois problèmes, la sagesse selon Job, la sagesse selon Rétro, la sagesse selon Bilal, sont vraiment trois univers radicalement différents. Et que c'est une manière d'être d'Israël, d'unifier cela, et d'être capable de cela.
Et je préférerais appeler ces deux points de vue, le point de vue de la réalité actuelle, celui de l'être, si vous voulez, et le point de vue de la mission d'Israël, c'est-à-dire du devenir, du futur, du devoir-être. Alors, est-ce que je suis d'accord avec vous, enfin, du moins c'est la preuve qu'on peut admettre, qu'actuellement il y a une antinomie entre la manière d'être des nations, la manière d'être d'Israël, tant envers l'unité, alors que la manière d'être des nations, tant envers l'unité. Mais est-ce que c'est là-dessus, c'est sur le plan de devenir, du devoir-être, que je vous pose la question, non pas sur le plan de la réalité, de la réalité actuelle, est-ce que la mission d'Israël, vraiment, elle est totalement universaliste, ne doit pas être nécessairement pour être fidèle à cet universalisme, d'ailleurs, au fait que Israël se présente comme modèle, c'est facile de dire le modèle, Israël est l'exemplarité des nations. Alors, qui dit exemplarité, qui dit universalisme, ce mot a pourtant de plus fort, doit dire au moins, dans l'espérance, dans le devenir, dans l'avenir, au moins de faire tout pour que cette unité existe non seulement en Israël, mais aussi dans les nations. Et alors, vous avez répondu tout à l'heure qu'il semble que c'est, en quelque sorte, ontologiquement, par nature, que les nations ne peuvent pas être Israël. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de discrimination ontologique, métaphysique, qui ne paraît pas dans la mesure où la mission d'Israël est en quelque sorte auto.
Oui, mais je vous réponds, à l'échelle individuelle, cette espérance est possible. C'est-à-dire, à l'échelle individuelle, le fait qu'un membre des nations puisse devenir Israël, cela est possible. Et c'est par exemple le thème de Russe qui a été cité tout à l'heure. Mais je crois qu'au niveau des cultures, des décennies culturelles, il y aura toujours un décalage. Alors, l'espérance d'Israël, c'est que les différentes cultures se polarisent, prennent pour modèle cette unité représentée par l'identité d'Israël. Mais je crois que tant que les nations s'érigeront, en génie individuel, c'est ontologiquement différent. Je ne peux pas vous répondre en disant que l'ambition d'Israël est de convertir l'humanité entière à l'identité d'Israël. Cela c'est catégoriquement impossible. Hein? C'est catégoriquement impossible.
En raison de la nature des nations,
oui. En raison de la nature des nations.
Vous faites un puissant qui est
entre
le tout,
puisque
par nature les nations sont incapables d'entendre intérieur.
Non, mais c'est.
Écoutez,
non,
c'est pas. Je pense que ça peut être un moteur, disons, grave de leur sexy, dans la mesure où il y a une discrimination ontologique.
Non, mais vous dites que c'est un état de fait. C'est un état de fait. C'est un état de fait il y aurait, vous savez, les antisémites n'ont pas besoin qu'on leur fournisse d'arguments, mais il y aurait un tort, il y aurait, comment dire, un jugement péjoratif inverse. Ce serait l'accusation d'impérialisme culturel portée sur Israël. Israël disait comme ça tout simplement que son ambition était de transformer en identité hébraïque toutes les identités culturelles des nations. Mais je crois qu'en fait, effectivement, il y a une vocation radicalement différente aux nations pour elles-mêmes et à Israël pour lui-même. La vocation des nations, c'est de faire les civilisations. Et la vocation d'Israël, c'est de les unifier. Et il y a une solidarité de vocation entre le centre et la périphérie. C'est ensemble que le centre et la périphérie font le cercle. Et on ne peut pas dire que la périphérie est inférieure au centre ou que le centre est supérieur à la périphérie. Au niveau de cette solidarité, si j'ose dire, les nations ont forgé les civilisations. Israël les traverse dans cette histoire compliquée de l'exil et de la diaspora. Israël les traverse et unifie les civilisations qui sont élaborées par les nations. Et actuellement, nous sommes à un stade particulier. Il y a toujours eu judéo quelque chose, comme je le dis souvent, et aujourd'hui il y a judéo l'humanité entière. C'est Israël qui est à l'exposant, le pays d'Israël, qui est à l'exposant de l'humanité entière, alors que chaque communauté juive était à l'exposant d'une culture particulière. On était judéo-portugais, judéo-alsacien, judéo tout ce que vous voudrez. Et maintenant, en Israël, on est judéo l'humanité entière. Bien. Oui. Chaque fois qu'on me pose cette question, je retrouve ma propre jeunesse. Quand je me suis posé la question, pourquoi la communauté juive a eu aussi besoin de Baden-Powell pour fonder un mouvement d'éclaireur israélite de France. C'est ça. Il y a des expériences auxquelles nous n'avons pas été, nous avons été loisibles de faire. Alors, effectivement, je ne sais pas si vous avez compris ma Liane. Et je ne sais pas si c'est cette phrase que ceci, mais que De Gaulle a lu pour dire ce qu'il a dit, que l'éclairage qui sera l'élite de France. C'est bon parce qu'il a, comment dire, c'était sa vocation propre, de savoir d'être préoccupé par le problème de l'organisation de la société. Eh bien, effectivement, lorsqu'Israël a constitué sa société, il a emprunté les expériences d'organisation de la société de Jethro. C'est très frappant à voir. Vous savez, lorsque un peuple a été mis entre parenthèses de l'expérience historique, il est normal que lorsqu'il retrouve son autonomie, il emprunte les expériences de structuration sociologique des civilisations qui sont les plus compatibles. C'est ça. Jethro savait organiser cet ensemble d'individus qui sortaient d'Égypte en peuple et il a transmis cette expérience à Moïse. Bien, ben je pense que nous allons nous arrêter là. Nous avons donc un rendez-vous au mois de mai. Oui.